Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
C'est le destin d'Élise, une jeune apaméenne brillante, promise à un bel avenir. La quête de liberté d'une prisonnière du monde des apparences et du mensonge est sans doute une singulière évasion. Un cheminement parsemé de doutes vers la recherche suprême de la vérité. Le choix du silence claustral, un renoncement peut-être, un engagement sûrement, et in fine, un fragile apaisement attestant que le spirituel est au-dessus du sens. L'angoisse existentielle, l'amour divin, l'amour humain, les chagrins mais aussi l'humour, l'amitié constituent les ingrédients de la vie d'Élise que nous conte Michel Dutille dans son roman « Dans l'arrière-pays du silence » paru chez Hasard Atelier Éditions et lauréat du prix du roman André Soubiran décerné par l'Académie du Languedoc en 2024. Nous avons donc le plaisir d'accueillir son auteur. Bonjour Michel Dutille.
Bonjour Monsieur Gilbert.
Je salue tous nos auditeurs et je précise rapidement que vous pourrez retrouver cette émission sur notre site ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes numériques. Alors Michel Dutille, vous citez Saint Augustin dans votre livre. Et qui dit « La foi, c'est croire ce que l'on ne voit pas. La récompense de cette foi, c'est de voir ce que l'on croit. » Est-ce que ça correspond bien à votre livre ?
Oui, ça le condense d'une certaine façon, en effet.
Voilà, donc c'est quelque chose donc, qui met en place un petit peu, je dirais, le décor. C'est quoi cette notion d'arrière-pays du silence ?
Oui, alors... là, vous faites allusion au titre,
oui.
En effet, qui n'est pas anodin. Le Carmel en tant que tel est quand même un lieu éminemment dédié au silence, à l'oraison et au silence. Mais j'ai voulu par ce titre signifier que c'est un silence au-delà, en quelque sorte, du silence habituel. Parce que ce n'est pas être seul dans sa chambre avec des pensées secrètes et tues, mais c'est, ça évoque un ancrage dans un certain au-delà, et qui serait donc un arrière-pays. Il y aurait le silence comme un pays en tant que tel, si on veut prendre cette image. Et donc, de ce point de vue, du point de vue de la foi, j'indique un arrière.
Entendu. Alors, on va y revenir hein, dans cet arrière-pays, naturellement, plus en détail. Auparavant, je voudrais que nous fassions plus ample connaissance pour que les auditeurs puissent vous connaître. Alors, vous êtes né à Pamiers, si j'ai bien fait mon enquête. vous êtes très tôt orienté vers l'enseignement et vous avez œuvré dans le domaine de la psychologie scolaire et ensuite de la psychanalyse.
Absolument.
Voilà. Et c'est un métier que vous avez exercé pendant longtemps ?
Oui, le métier de psychologue scolaire a très peu de temps en réalité, mais déjà mon ancrage dans la psychologie clinique et la psychanalyse est relativement ancien, oui.
Alors, est-ce que la pratique de la psychanalyse est quelque chose qui prédestine ou qui prépare une carrière d'écrivain ?
En ce qui me concerne, je ne le crois pas, étant donné que ce désir d'écriture, dès l'adolescence, je pourrais dire, a toujours été présent. Je m'étais essayé d'ailleurs longuement à des nouvelles, qui m'ont paru inintéressantes assez vite. Et puis, la retraite de mon activité étant venue, ce désir qui n'avait pas cessé, qui était latent, s'est animé à nouveau. Et puis, voilà, j'ai eu l'audace, je mets des guillemets, de m'adresser à un éditeur, ce que je considère comme un pas décisif. Ouais. on peut garder son écrit dans son tiroir. Évidemment, autre chose est cet instant que l'on choisit et qui fait qu'on se met sous le regard de l'autre, déjà.
Les nouvelles dont vous avez parlé tout à l'heure sont restées non publiées?
Non, elles sont restées non publiées, détruites même. Donc, elles avaient vaguement trait à des problèmes psychologiques, je dirais, interhumains. Mais encore une fois, je n'y trouvais aucun intérêt littéraire, en tout cas.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez publié deux ouvrages. Un premier ouvrage qui s'appelle « Les hivers de la forêt musée » en 2020.
Oui.
Et puis donc ce second ouvrage « Dans l'arrière-pays du silence » qui est paru donc en 2024 et dont nous allons parler en détail aujourd'hui. Quel était le sujet du premier ouvrage « Les hivers de la forêt musée » ?
Alors, le premier roman est une fiction qui se situe dans les années 30, 40 et 60. Au cours de laquelle notre région se trouve disloquée par un courant nationaliste qui surgit de toutes les régions, jusqu'à l'Occitanie, n'est-ce pas ? Et dans ce contexte-là, j'introduis, et là, bon, c'est vrai que ça interroge directement ma pratique, j'introduis l'existence d'un enfant autiste qui est promis à un avenir plutôt sombre, et en tout cas en termes de lien social, c'est compliqué pour lui. Eh bien, je n'en dirai pas trop sur ce roman, mais petit à petit, il s'insère à la société et il trouve même, ce qui se confirme dans ce cas de figure souvent, il trouve une voie à travers une activité professionnelle qu'il épanouit et qui lui permet aussi de se tourner vers l'autre au cours de son expérience professionnelle.
D'accord. Alors, compte tenu de ce sujet, on peut quand même en déduire, et je reviens un petit peu à ma question précédente,
oui,
que ce premier ouvrage est un peu une fiction à la croisée de la psychanalyse et de la critique sociale. Donc, quelque part, vous aviez un besoin, peut-être, d'écrire dans ce domaine-là. C'est peut-être un peu ça qui vous a poussé à écrire in fine.
Pour autant, je ne tiens pas le dernier roman, l'histoire d'Élise, n'est-ce pas, comme une nécessité de vérifier quoi que ce soit d'une théorie psychanalytique, mais ça, c'est mon analyse personnelle et le lecteur n'est pas obligé de partager ça. Je retrouve quand même des interrogations propres au psychisme humain, je dirais. Et à travers l'émergence d'une foi qui n'est pas exempte, on va en reparler, de doutes, d'errements et même d'ambivalence.
Alors, vous avez choisi dans vos deux ouvrages publiés la forme du roman. Alors, j'aimerais peut-être pas vous demander quelle est votre définition du roman, mais j'ai trouvé trois définitions du roman et j'aimerais bien que vous nous disiez laquelle vous préférez.
Oui.
Alors, la première, c'est celle des frères Goncourt, le roman est de l'histoire qui aurait pu être.
Oui.
La seconde définition, c'est dans Stendhal, Le Rouge et le Noir, un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Et la troisième, chez Flaubert, dans ses correspondances, le roman doit être une œuvre d'art, rien qu'une œuvre d'art. Où va votre préférence ? La première, la deuxième ou la troisième ?
Écoutez,
spontanément.
Je dirais un peu, avec facilité, un peu des trois. Avec une préférence plus affirmée pour Flaubert, qui fait partie de mes acteurs préférés, de mes écrivains préférés. Et alors, je retrouve une identification à Flaubert, si je puis dire, à travers ma préoccupation, je ne sais pas si j'y parviens, d'être attentif, hostile aux mots choisis et que je considère en effet comme premier.
Alors, nous allons voir tout ça en détail et je pense d'une manière qui permettra aux auditeurs effectivement d'en juger. Alors, votre travail d'écriture, est-ce que vous pourriez nous expliquer la manière dont vous écrivez le matin? Vous vous levez à 5 heures du matin et vous écrivez pendant un certain temps. Comment vous procédez?
Alors, je n'ai pas de plan particulier ni d'horaire temporel précis. En général, il m'arrive d'écrire le matin, pas très tôt, si je ne suis pas un lève-tôt. Et puis, dans la journée, lorsque j'ai une idée ou quelque chose de mystérieux, n'est-ce pas, qui s'appelle ce désir d'écrire. Alors, en ce moment, un peu préoccupé par notre rencontre, je n'écris pas.
J'espère que nous n'avons pas retardé votre production littéraire.
Non, je ne crois pas.
Dans la manière d'écrire, c'est le premier jet est aisé et facile, ou vous avez besoin de beaucoup retravailler vos phrases, de revenir sur le métier?
Oui. Eh bien, là aussi, c'est selon. Il y a dans l'écriture, que j'ai travaillé dans d'autres lieux d'une façon universitaire, je dirais, d'une façon, il y a cette espèce de certitude par moment que ce qu'on a écrit, c'est ça, et que c'est intouchable. Bon. Et à d'autres instants, eh bien, il y a une insatisfaction. C'est difficile de dire à quoi ça tient, mais probablement, à mon avis, à un certain rythme, à une certaine musicalité, à laquelle aussi je suis attaché.
D'accord. Et c'est un doute que vous avez systématiquement, ou c'est pas forcément dans tous les cas?
Il peut y avoir un doute, et il peut y avoir aussi la certitude que rien n'est à retoucher.
D'accord.
Bon, mais j'ai pas fait de statistiques précises, mais la plupart du temps, malgré tout, je suis amené à modifier, à compléter et à relire aussi à haute voix, comme le faisait mon cher maître.
D'accord. Alors, revenons-en au roman. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez eu l'idée de ce roman, de quoi c'est parti exactement?
Oui. Alors, ce roman ce n'est rien d'original peut-être, mais il naît d'un fait divers, tout simplement. Et ça rappelle que j'ai une soirée à laquelle j'ai assisté le 8 novembre 1999. Il y a eu, dans la chapelle du Carmel à Pamiers, un concert de chant grégorien. Et je ne connaissais pas le chant grégorien, et j'ai quand même été plutôt happé par cette sorte de pureté des courbes vocales qui est plutôt, à mon sens, impressionnante. Et le spectacle avait quelque chose d'assez prenant et émouvant aussi pour beaucoup, c'est que la communauté des carmélites, qui était réduite à cinq vieilles femmes, était cachée dans l'obscurité derrière la grille de clôture qui sépare les bâtiments du Carmel de la chapelle.
C'est-à-dire qu'elles assistaient au concert,
oui,
derrière une grille qui donne sur la chapelle.
Absolument.
Voilà.
C'est ça. Oui. Soirée inoubliable à double sens pour moi, d'autant que dès le lendemain, j'ai été informé, notamment par la presse locale, que la nuit qui a suivi le concert du gospel, la Carmélite la prieure est décédée. Et je dois dire que sans avoir pensé à faire un roman sur des lieux que je connais un peu malgré tout, hein, notamment par ma mère qui fréquentait les lieux quand il s'agissait d'aller autour, porter des petits travaux à effectuer, eh bien, ça m'a paru le point de départ d'un roman. D'un roman où j'entrevoyais, d'une façon un peu vague, cette idée de raconter le parcours de cette femme qui s'effondre pendant la nuit la nuit qui a suivi le concert. Voilà, c'est parti de lui, de là.
Ça a été donc l'élément déclencheur. Je voudrais préciser aussi, peut-être pour les auditeurs, que ce concert de chant grégorien qui était donné à la chapelle des Carmélites de Pamiers l'était dans le cadre du festival Gabriel Fauré.
Absolument.
Pour profiter de rappeler que Gabriel Fauré est né, donc est un enfant du pays de Pamiers.
Absolument.
Voilà. Alors, nous allons revenir plus en détail sur cette histoire, mais auparavant, je vous propose une petite pause musicale.
D'auteur. Philippe Gilbert.
La pavane de Gabriel Fauré. Donc, compte tenu de vos explications, nous comprenons un petit peu votre choix donc de la musique de Gabriel Fauré, puisque il est natif de Pamiers. Et le choix spécifique de la pavane a été motivé par quoi ?
C'est un air que j'apprécie beaucoup et puis qui m'a semblé résonner aussi avec cette question de tranquillité carmélite aussi, carmélitaine.
D'accord, c'est une musique qui colle bien à l'ambiance du roman.
Je trouve, oui.
Voilà. Ouais. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Michel Dutil pour son ouvrage « Dans l'arrière-pays du silence » paru chez Hazard Atelier Édition. Alors Michel Dutil, vous nous avez expliqué ce qui a provoqué cette idée du roman. Alors, vous commencez ce roman en présentant deux épigraphes. Premièrement, je cite « Qu'est-ce que notre vie de recueillement ?»« Une nuit à passer dans une mauvaise auberge et c'est tout. » C'est une citation de Thérèse Davila. Et oui. Ensuite, vous donnez une citation du Caravage qui est tout simplement « Je cherche le réel ». Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer le pourquoi de ces mises en épigraphe, de ces deux citations ?
Oui,
c'est quelque chose.
La première, pareil, m'avait paru quand je l'ai lu assez surprenante que une mauvaise nuit a passé ou c'est tout. J'avais trouvé que Thérèse Davila banalisait un peu les choses. Et en fait, il s'avère qu'elle était, entre guillemets, très ouverte à l'humain, aux errements, et voilà. Ça m'a intéressé. Quant à la citation du Caravage, qui cherche le réel, qui ne dit pas qu'il le trouve, hein, c'est-à-dire... le réel, là, ce qui est un terme qui serait plus psychanalytique en l'occurrence, qui est quelque chose qui échappe au langage déjà, qui échappe aux mots. On essaie de s'en approcher, hein, la religion aussi a cette mission. Et ça m'a semblé adéquat aussi à la démarche d'Élise. Si on reprend, comme vous allez le faire un peu, son cours, son parcours, hein, de l'adolescence en gros à son entrée au Carmel, ça me paraît être dans quelque chose qui est de sa propre recherche et qu'on peut situer puisque elle peut pas non plus en dire plus qu'elle ne peut, ça peut se situer du côté de ce réel-là, oui.
Donc à ce titre-là, effectivement, ça illustre le parcours d'Agnès que nous allons voir maintenant en détail. En préparant cette émission, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la citation du Caravage. Et il y a une citation du Caravage qui dit « Je veux peindre la vérité nue du monde, sans embellissement, et faire surgir le sacré à travers la matière, la lumière et les corps ». Donc, oui. Effectivement, c'est donner cette épaisseur au réel en disant que quand on essaye de chercher le réel, finalement, on cherche aussi le divin.
C'est ça. Hein, ouais. La vérité nue étant du côté de cette quête, en effet.
Alors, Agnès, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est-elle ?
Agnès.
Oui. Votre héroïne.
Élise,
pardon, oui, Élise, excusez-moi.
Oui. Oui. Élise, oui.
Alors, qui est-elle ?
Alors, elle est... c'est une apaméenne, je dirais, un peu typique, avec des parents issus d'immigration, portugaise et espagnole. Voilà... élevé, je dirais, dans un milieu chaleureux et sécurisant, qui a un jeune frère dont elle s'occupe aussi, maternellement déjà, je dirais, qui fait un peu les 400 coups et qu'elle surveille sans arrêt. Elle est dans la famille, déjà, si je puis dire, quelqu'un d'un peu à part. Non pas qu'elle dédaigne ce qui l'entoure, mais elle est poussée au silence, à la solitude, à l'introspection. Donc elle a quand même cette disposition préalable, si je peux dire. Je n'en fais pas un signe explicatif de tout, mais ça fait partie aussi de sa psychologie, en quelque sorte.
Et c'est donc quelqu'un qui est brillant, qui fait des études ?
C'est ça, de l'être notamment, oui.
Et cette personne a effectivement une propension à se poser des questions, peut-être se poser des questions existentielles.
Oui.
Et il arrive un événement dans sa vie, finalement, qui va un peu précipiter les choses, puisque elle rencontre quelqu'un.
Oui.
Et comment ça se passe, cette rencontre?
Alors, c'est une rencontre qui relève d'un regard. Elle rencontre un jour qu'elle rentre de la faculté, elle croise le regard d'un homme dont elle ne voit que le visage, étant donné que sa boutique, il est un tailleur d'habits, est en partie opaque, et donc les regards se croisent. Là, il y a la question que chacun peut interpréter comme un coup de foudre, comme une rencontre décisive. Et c'est petit à petit une histoire d'amour passionné qui s'engage entre ce jeune homme et Élise.
Ouais. Et alors, comment va évoluer cette histoire?
Alors, cette histoire, elle évolue dans un premier temps très favorablement. Et puis, quand même, il est habité par beaucoup d'ambition, le jeune tailleur.
Il faut préciser sa profession.
Il est tailleur, oui. Et il a fait la connaissance par d'autres, enfin, par ses relais ou sa clientèle, probablement, de Jean Raymond, qui existait, qui était un grand couturier parisien des années 60, qui l'embauche. Donc, il abandonne sa petite boutique de pamiers qui prospérait malgré tout et s'envole vers Paris avec le projet d'inviter Élise à le suivre. Mais bon, pour des raisons un peu matérielles et d'études en particulier, ne peut pas y aller dans l'immédiat. Et puis peu de temps après arrive cet événement particulier, enfin, qui est l'effet aussi de la rencontre amoureuse, c'est qu'elle est enceinte. Évidemment, elle prévient ce garçon qui répond que sa fibre paternelle est tout à fait insuffisante et donc il la laisse avec son enfant à naître.
Et c'est à cet instant-là, à ce moment-là du roman, qu'il y a, je dirais, un point de rupture dans la vie d'Élise,
oui.
Dans la mesure où elle va vraiment entrer en introspection et se poser des questions et être à terme en mesure de prendre une décision importante.
Oui, oui.
Alors vous pouvez...
Alors oui, tout à fait. Ce moment particulier où elle retrouve beaucoup d'introspection est favorisé par le fait qu'elle est chez une amie qui l'héberge, puisque ses parents sont décédés dans un grave accident de la route. Et il se trouve qu'elle est face à l'église du camp, qui a un aspect de forteresse, et elle est poussée, il est vrai, à s'y rendre, non pas pour prier, parce qu'elle n'a pas cette éducation forcément affirmée, mais pour passer un moment de silence dans ce lieu où naît chez elle ce que j'appellerais une spiritualité, mais une spiritualité assez vague, un peu nébuleuse, et qui va, elle rencontre des prêtres aussi, qui va se transformer en religiosité, peu à peu, là c'est un saut en effet, dans le religieux.
Et elle va donc... avoir une certaine progression dans ce parcours.
Oui.
Et ce parcours va l'amener à faire un choix, à s'engager.
C'est ça. Auparavant, se pose la question cruciale et très pratique de son accouchement. Et après, là aussi, après avoir douté longtemps de son devenir de mère, elle décide d'abandonner cet enfant et d'accoucher sous X. Ce qui est une pratique qui était compliquée malgré tout dans les années 60, ça se situe à ce moment-là. Et elle s'estime plutôt, avec son ami qui l'accompagne, elle s'estime plutôt maltraitée par le monde médical, comme s'il s'agissait de quelque chose qui ne rentre pas dans l'éthique du moment. Donc l'accouchement a lieu, et le souvenir qui lui en reste, c'est beaucoup de souffrance physique, évidemment, et puis la fuite dans le couloir de la clinique d'une blouse blanche qui porte un bébé criant et dont elle remarque à peine, mais très fugacement, une tache rouge sur le front.
Et cette tache rouge sur le front est un élément, je dirais presque essentiel, dans le roman que l'on soumet à l'attention de nos auditeurs et qui découvriront ce qu'il y a derrière cette description, cette tache rouge. Alors je voudrais que l'on revienne un petit peu en arrière. Donc, votre personnage est dans une position où elle accouche sous X et elle va prendre la décision de rentrer au Carmel.
Oui.
Alors, vous décrivez très bien la situation, les doutes, les hésitements, les hésitations qu'elle va avoir par rapport à sa décision. Et alors, finalement, cette décision, elle est prise parce que elle est arrivée à l'aboutissement d'une réflexion spirituelle où elle le fait peut-être dans le doute, par dépit. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Oui, j'ai tenté de rendre la chose plutôt indécidable pour répondre à côté à votre question, mais en tout cas, oui, je suis quand même plutôt attentif à la propre interprétation des lecteurs, n'est-ce pas, qui peuvent se faire une idée de cette question, mais il y a effectivement ces aspects-là, oui.
Et donc, c'est pour avoir lu le livre, effectivement, c'est vrai qu'il est assez difficile de trancher. Hein. La manière dont c'est présenté, ce qu'elle vit, la manière dont elle réagit, sur le moment et dans le temps, puisque le roman se passe sur une longue période,
oui.
Même à la fin du roman, c'est difficile de faire la part des choses, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du roman, oui. Cette peinture de l'hésitation, du doute qui va, qui vient, et pour lequel on ne peut pas se...
Oui. Voilà. Je vous remercie de cette lecture, en tout cas.
Voilà. Bien, je vous propose maintenant de passer à la seconde pause musicale.
Oui.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Point.
Garçons et les filles de mon âge de Françoise Hardy. Alors Michel Dutil, c'est une chanson des années 60, ça illustre oui. bien le contexte dans lequel vit Élise à ce oui. moment-là.
Oui.
Et ça marque bien finalement que sa différence quelque part.
C'est ça, oui. Ouais. Oui, tout à fait. En plus, c'est une, au sens géographique du terme, c'est une voisine du Carmel, ce qui est quand même une rareté. Hein. Et puis, bon, des chansons qui sont de son temps, en effet. Voilà.
Alors, on va revenir au Carmel et à sa situation géographique dans la ville, au milieu de la ville, tout en étant à l'extérieur de la ville.
C'est ça.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Michel Dutil pour son ouvrage « Dans l'arrière-pays du silence » paru chez Hasard Atelier Éditions. Donc nous avons parlé d'Élise, de la décision qu'elle prend de rentrer au Carmel compte tenu des circonstances, compte tenu d'une certaine démarche spirituelle qu'elle a entamée auparavant. Et vous décrivez très bien l'entrée au Carmel, c'est-à-dire que vous décrivez que finalement... Du jour au lendemain, on bascule, elle bascule dans un autre monde. Et vous décrivez par les lieux de manière physique ce qui se passe. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, je lis votre description de l'entrée au Carmel. La grosse clé tourna sèchement dans la serrure. Les verrous glissèrent, se refermant sur les horizons familiers, les senteurs des forêts et à jamais sur les voisinages amis. Devant la prieure, une nouvelle fille s'agenouillait pour recevoir sa bénédiction. L'instant d'après, dans le cœur, ignorante du cérémonial, elle fut invitée à offrir son oblation au Seigneur et à la Vierge. Puis, au jardin clos du noviciat, ses sœurs l'embrassèrent avec tendresse en revivant les affres de leurs propres angoisses. C'est cette entrée... Ce basculement dans un autre monde. Comment avez-vous fait pour décrire, pour mettre des mots sur ce moment qui est un moment très spécial?
D'abord, il y a une forme, on pourrait dire, d'identification à cette jeune fille. Et. Ce qui m'a poussé à ce type d'écriture, c'est que le moment de cette entrée, ce basculement, cette évasion paradoxale dont on parlait, a quelque chose de très prenant, de très émouvant pour tous ceux qui ont assisté à ça d'ailleurs. Qui sont peu nombreux, parce que tout le monde ne peut pas y assister. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Si, tout à fait. Et alors, vous ajoutez surtout dans la dernière phrase, en disant « Ses sœurs l'embrassèrent avec tendresse en revivant les affres de leurs propres angoisses. » Encore une fois, on sent bien que vous exprimez à nouveau le fait que y a pas, y, elle n'est pas la seule à être l'objet de doutes
oui.
qui crée d'ailleurs, par ailleurs, des angoisses. C'est que c'est presque le cas le plus fréquent, c'est-à-dire toutes les personnes qui... Toutes ces sœurs, comme vous l'écrivez, sont passées par là et vous sous-entendez dans votre écrit qu'elles sont passées par là, mais elles y sont toujours un petit peu, peut-être, dans le doute.
Oui, oui. Et puis il y a, je pense qu'elle ne vous a pas échappé, la situation de Thérèse.
Non, mais expliquez aux auditeurs. Thérèse, c'est qui ?
C'est Thérèse d'Avila.
Voilà.
Thérèse d'Avila qui le jour de son entrée, elle aussi, ne l'avait pas.
Non, mais dites, expliquez simplement.
Alors, oui, j'aurais voulu la citer en entier, mais où elle exprime qu'elle doute beaucoup sur le fait qu'elle va pouvoir échanger l'amour éprouvé pour son père contre celui qui est incarné par le Christ. Ce qui m'a paru tout à fait remarquable, comme de choisir son destin. Et jusque-là, y compris à son entrée dans le Carmel, elle exprime le doute. Je ne pourrai jamais trouver un amour égal à celui que j'ai prouvé pour mon père.
Voilà.
Et c'est intéressant pour la question du père, en effet.
Alors, c'est intéressant pour la question du père, et c'est aussi intéressant dans le fait que, pour Thérèse, c'est l'amour du père, l'amour divin, et pour Élise, c'est l'amour d'Henri, l'amour divin. C'est-à-dire, c'est une répétition pour savoir si effectivement le choix que l'on peut faire entre l'amour humain et l'amour divin, c'est ça la problématique essentielle.
Oui.
Voilà.
Et d'ailleurs, elle a trouvé dans ses écrits, notamment vers Bernard de Clairvaux, là, qui est un abbé du XIIe siècle. Cette idée que je voudrais que la passion amoureuse, c'est un peu ce que vous exprimez là, que la passion amoureuse est la métaphore du vécu mystique.
Ouais,
la passion amoureuse est la métaphore du vécu. Donc on peut penser de ce passage du Père à la figure du Christ, en effet.
Oui. Alors donc, c'est quelque chose qui est au cœur du roman. Et ce qu'il y a d'original dans votre ouvrage, c'est qu'au-delà de cette recherche spirituelle, de cette entrée au Carmel, il y a une intrigue policière.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le début de l'intrigue sans en révéler trop à nos auditeurs ? Alors, qu'est-ce qui se passe qui déclenche l'aspect roman policier dans votre ouvrage ?
Oui, alors là, je suis amené aux origines de cette enquête. Il se trouve que il y a une sorte de confusion en premier niveau entre le chef de chœur qui parce que puis-je revenir en arrière ?
Ah, tout à fait.
Voilà. Élise, à la fin de sa vie, non, elle est encore relativement jeune, elle est entourée de trois ou quatre vieilles carmélites. Et les groupes sont les groupes, n'est-ce pas ? Les femmes, les individus aussi. Et il y a quand même des tensions, des questionnements, des rancœurs, et même des sortes de curiosités pour le monde extérieur. Alors, comme elle est plutôt inventive, les prieurs dans les cardinals peuvent, contrairement à peut-être à ce qu'on peut imaginer, ont beaucoup de latitude aussi pour organiser les discussions, les loisirs à l'intérieur. Et donc elle a l'idée de tous les dimanches, là, après l'office, leur office à elle, d'organiser une discussion à bâton rompu, comme ça, alors que rien ne la pousse à cet exercice. Et elle va s'appuyer sur quelque chose qui leur est familier. Elle choisit le journal La Croix, qui peut les aider à poser quelques thèmes particuliers. Chemin faisant, dans ces rencontres, on apprend que un individu écume les cartels de
les carmels
de la région, n'est-ce pas, et commet des choses horribles et tue même les carmélites. Bon, évidemment, ça bouscule les thématiques du dimanche matin et on doit quand même rassurer ses sœurs. Un personnage est arrêté, qui rôde autour du caramel, justement, alors que la soirée n'est pas entamée, c'est le matin, et ce personnage-là se retrouve au commissariat. Bon, il est suspect, bien entendu, d'être le tueur des caramels, comme le titre, le journal local. Et en fait, les choses perdurent.
Et en fait, c'est le début de l'enquête qu'il ne faut surtout pas dévoiler aujourd'hui.
Oui.
Et qui donne cet aspect policier donc à votre roman. Alors, je voudrais que l'on revienne 30 secondes sur l'organisation du Carmel, de la vie dans cette communauté. Alors, vous parlez de sœurs qui sont très, très âgées, en disant que ces communautés sont en train de disparaître puisqu'il y a de moins en moins de carmélites. Et il y a tout un rituel. Et dans ces communautés, il y a des besoins spécifiques qui émergent et qui sont un peu à la charge de la prieure qui est responsable de la communauté. Et vous citez dans votre roman, parmi ces besoins à satisfaire, vous parlez de répondre aux demandes implicites d'amour et de maternage, et avec le sentiment de traiter les névroses religieuses. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette communauté, l'ensemble des membres de cette communauté ont des besoins qui ne peuvent être satisfaits finalement que par quelqu'un qui est responsable et qui va donc assumer un rôle de maternage ou un rôle de suivi, ouais, on pourrait dire presque psychologique,
oui, oui,
vis-à-vis des membres de la communauté.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Ouais. Ouais.
Et vous l'avez décrit, vous aviez des éléments pour décrire cette situation, pour décrire ces besoins, à partir de quelles informations vous avez travaillé
Oui, il se trouve qu'un auteur apaméen, qui n'est pas écrivain, mais enfin qui a fait un travail remarquable, qui a repris un livre où sont consignés, je pense que tout le monde n'a pas accès à ça, où sont assez les circulaires, où sont notés ce qu'on appelle les circulaires. Alors, les circulaires, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de biographie des sœurs et des prieurs quand elles sont décédées. Et c'est vrai que j'ai noté dans ces comptes rendus, le terme n'est pas explicite, pour l'auteur qui les a trouvés. J'en ai fait, moi, des formes de somatisation, c'est-à-dire beaucoup de problématiques, de douleurs, de souffrances passent par le corps.
D'accord.
Et Élise comprend ça aussi.
Elle l'intègre et elle va s'en servir finalement pour gérer
c'est
cette
ça.
Communauté.
Et elle remarque très, très subtilement que lorsque la parole se dénoue, notamment dans ces réunions du dimanche, eh bien, il y a moins de somatisation.
Voilà. Ouais. Michel Dutil, merci beaucoup de nous avoir fait partager la vie, les éléments de vie de Élise. Je voulais préciser à nouveau donc que votre ouvrage s'intitule « Dans l'arrière-pays du silence » paru chez les éditions Hasard Atelier Éditions. Je voulais remercier les auditeurs pour leur fidélité. Merci à Coraline à la technique. Et merci à vous, Michel Dutil.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Thank you.